radio du sport à Québec. Entrevues, analyses, faits marquants. Le monde du sport passé en revue. Voici l'avant-match avec Dan Boone.
Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'avant-match, émission numéro 2201. J'espère que vous allez bien. Une émission chargée, évidemment, ce soir. Je vous rappelle, pour les gens qui avaient peut-être manqué l'émission d'hier, qu'on a une émission d'une heure ce soir. Ce sera le cas également demain. On va faire 30 minutes jeudi et une heure vendredi. C'est la nouvelle formule de l'avant-match avec le changement de grille horaire. On revient à une émission plus naturelle, comme vous l'avez écouté, depuis une dizaine d'années maintenant. C'est vrai, je parlais de 10 ans depuis quelques semaines, mais le 10 ans officiel de l'avant-match, ce sera samedi. Et samedi, il n'y aura pas d'émission spéciale pour ça, là, mais je veux dire, on avait lancé ça, l'émission, un 18 janvier en 2010. Donc, 18 janvier 2020. Ça va faire 10 ans pile. Hey, Will, est-ce que tu as un extrait sonore? Il y a de quoi de bien tannant? Je suis en train de parler, puis ça coupe dans mes écouteurs. T'as-tu de quoi, là? T'as-tu un but? T'as-tu Marchand en tir de barrage hier qu'on pourrait faire entendre aux auditeurs? Désolé pour les auditeurs, là. C'est très rare que je commence ça avec un problème technique, là. J'ai juste de quoi à gérer. J'aurais besoin d'un petit 30-40 secondes. Un extrait d'Alexis Lafrenière, sa conférence téléphonique hier. Quel est le sujet, mon cher Will? Il réalise de plus en plus qu'il y a des succès dans le monde du hockey. On écoute ça.
Tu sais, je pense qu'il faut vraiment que je reste dans le moment présent. Là. Tu sais, j'ai vécu des dernières semaines quand même hautes en émotion. Puis tu sais, là, je suis revenu ici. Puis j'ai eu vraiment une belle fin de semaine ici avec les gars. Puis je repars tout de suite. Fait que c'est vraiment juste de rester dans le moment puis essayer de profiter le plus possible de ce que j'ai la chance de vivre. Là. Juste la médaille d'or, je pense que c'était vraiment c'était spécial. C'était un peu, on dirait que c'est le moment, c'était pas réel. Puis, tu sais, c'était vraiment, on y a tellement rêvé que puis c'est arrivé que c'est dur de réaliser. Fait que c'est sûr que c'est des moments très spéciaux, puis il faut essayer d'en profiter le plus possible.
FM 93, la radio du sport à Québec. Entrevue, analyse, faits marquants. Le monde du sport passé en revue. Voici l'avant-match avec Dan Boone.
Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'avant-match, émission numéro 2201 et demi. Parce que là, on a fait une minute et demie. Tu croches, on repasse ça comme il faut maintenant. C'est drôle, je fais une blague avec le une demi, hein, mais dans certaines municipalités, certaines rues de certaines villes, il y a des adresses avec un une demi. Je sais pas où exactement, là, mais je vous salue si vous habitez dans un 44,5 ou dans un 14,09,5, mais ça m'avoir déjà vu ça dans certains coins de la ville. Bon, revenons aux choses sérieuses. On va parler avec Louis-Jean ce soir, on va parler avec François Paquette également. Sachez que c'est le lancement aujourd'hui de la promo des patinoires extérieures. Vous êtes nombreux, des auditeurs de l'avant-match, à m'avoir signalé dans les dernières semaines. « Ouais, là, ça va-tu revenir, Dan, les patinoires? » Ben oui, ça va revenir, c'est sûr, c'est la cinquième année. On n'arrêtera pas ça du jour au lendemain comme ça. Donc, cinquième édition de la tournée des patinoires extérieures. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est que ça prend une patinoire autour de la maison. Et si vous avez ça, si vous faites ça comme parent, vos enfants sont chanceux. Puis si vous entendez ça comme enfant ou adolescent, vous êtes chanceux que vos parents mettent autant de temps à se lever en pleine nuit, très tôt le matin, ou à se coucher très tard pour essayer d'arroser la patinoire. Avez-vous réalisé que samedi dernier, il a fait 4 degrés à Québec? Il a plu, les patinoires extérieures, ça a pris le bord. Dimanche, la tempête, 25-30 cm, avec du froid lundi, oh, les patinoires sont revenus. Ben, c'est un peu ça, vivre au Québec. Et les patinoires extérieures, c'est un bonheur de passer l'hiver en jouant sur les patinoires extérieures. Quand je suis parti de chez moi ce matin et j'ai vu qu'il faisait aussi beau, je me suis dit, quelle belle journée pour patiner à l'extérieur. Donc, si vous avez l'intention ou si vous avez déjà fait une patinoire et vous avez des photos à me fournir, je suis preneur. Concours avec un S à commercial fm93.com ou directement sur le Facebook du FM93. Un gros merci aux gens de Budweiser, de l'entrepôt du hockey et de Quesada, Burrito et Taco. C'est les partenaires pour l'escouade Pou pour cette année. Le 8 février prochain, avec mes chums Houdini, qui va faire des tours de magie pour les différents enfants qu'on va visiter. Et mon chum Luc Santerre également de la brasserie Labatte. Ben, on va faire le tour de quatre familles qui auront au préalable remporté cette promotion. Je veux juste m'arrêter sur ce qui s'est passé hier dans la Ligue nationale brièvement avant d'aller parler avec Louis-Jean. Sachez qu'à un moment donné dans le match, c'était les Islanders 1, Artemis Panarin 5. Ça a fini 6-2 pour les Rangers contre les Islanders, mais Panarin a participé aux 5 premiers buts de son équipe. C'est un excellent joueur de hockey qui a fait son arrivée avec les Blackhawks de Chicago dans la Ligue nationale. Il jouait avec Patrick Kane, ça a fait un duo du tonnerre. Et il s'en est allé à Columbus cet été, au 1er juillet. Les Rangers de New York l'ont signé. Vous savez combien ça a coûté, Artemi Panarin? Ça a coûté cher. Vous aimez ça le voir jouer, vous l'avez pris dans votre pool de hockey, mais vous ne voulez pas faire le chèque aux 2 semaines. Artemi Panarin, c'est 7 ans, 81,5 millions. 11,6 millions par année. Mais Artemi Panarin, il a fait 5 points hier, il est rendu à 67 en 45 matchs. Donc, 45 matchs, 67 points pour Panarin. Il n'y a pas personne hier soir en regardant le match qui s'est dit « Ah, oh, Panarin, ça n'a pas de bon sens, ben trop cher son contrat. » Non. Pourtant, souvenez-vous ce qu'on a fait dans les dernières années, le 1er juillet. On regarde ça, puis là, quand une nouvelle sort, on s'envoie des textos, hein, la gang de chums. « Hey, tu veux ça? » Edmonton, ils ont signé Lucic. 49 millions, c'était ben trop cher. Quel autre dans les dernières années? Andrew Ladd. Andrew Ladd avait signé avec les Islanders. D'après moi, il reste 4-5 ans à son contrat, puis il ne joue même plus pour les Islanders. Ou s'il joue, il va aux pratiques, puis il est à la galerie de presse après. Andrew Ladd, contrat, on s'envoie des textos le 1er juillet. Ça n'a pas de bon sens, tu veux ça aller? Sergei Bobrovski en Floride cette année. Il n'y a pas une super saison, Bobrovski. Il y a eu quelques matchs où on l'a retiré du match. Gros contrat également. Panarin, 11,6 millions par année. Mais on s'enflamme le 1er juillet, mais le reste de l'année, ça n'a pas d'importance, le salaire du joueur. Là. On s'en fout. Il est rendu à 67 points en 45 matchs. Puis c'est une bonne transition. C'est un gars qui n'est pas si vieux, qui va aider les jeunes joueurs des Rangers, parce que les Rangers ont un excellent noyau de joueurs pour l'avenir. Les Rangers, c'est un des meilleurs jeunes clubs de la Ligue nationale actuellement. Est-ce qu'on est pas prêt à aller... OK. Parfait. Désolé, Will était en régie, puis il me faisait des signes, puis je comprenais pas bien, mais ça sera pas long dans quelques instants. On va parler avec notre premier invité. Je veux vous parler également de Sidney Crosby, et je veux vanter... c'est pas compliqué, je veux vanter Evgeny Malkin. Crosby a manqué 28 matchs. 28 matchs pour Crosby de manquer depuis le début de la saison. Les Pingouins, 18, 6 et 4 en l'absence de Crosby. Ça, c'est du Malkin tout craché. Là. Malkin, quand Crosby n'est pas là, on dirait qu'il est meilleur. Mais il est bon aussi quand Crosby est là. C'est juste qu'on le remarque plus quand Crosby est absent. Et on ne peut pas en dire autant de Crosby, savez-vous pourquoi? Pas parce que Crosby ne joue pas bien quand Malkin est absent. C'est parce que Malkin a manqué moins de matchs que Crosby. C'est juste ça. Crosby a été vraiment blessé beaucoup dans sa carrière, là. Commotion cérébrale, on se demandait s'il allait pouvoir rejouer à un moment donné. Reculons, il y a 4-5 ans, on était inquiets pour la carrière de Sidney Crosby. Mais à chaque fois qu'il n'est pas là, Malkin fait les choses en grand. Et Crosby revient ce soir après 28 matchs d'absence. Il a 17 points en 17 matchs en début de saison. Sachez que les Pingouins sont quatrième au classement général en date d'aujourd'hui. Les Pingouins, quatrième. Si je vous l'avais pas dit, puis j'avais fait un quiz avec vous, auriez-vous répondu quatrième à la question « Les Pingouins sont à quel rang au classement général? » Pas certain que vous auriez dit quatrième.
L'avant-match. Voici François Paquette.
Comme c'est le cas chaque mardi, on s'entretient avec le chroniqueur sportif François Paquette. Salut François.
Salut Dan.
François, ton sport préféré est éclaboussé, pas à peu près?
Ah, c'est sûr que c'est pas très beau ce qui se passe depuis quelques jours. Puis c'est pas fini, Dan. Là, les répercussions vont continuer d'arriver dans les prochains jours parce que Bon, les Astros de Houston ont perdu des choix au repêchage, une amende, la suspension de leur DG et de leur coach avant d'être congédié finalement pour des histoires de vol de signaux fait de façon électronique, il faut le dire, Dan, parce
Mais attends, attends, François, oui. tu vas trop vite parce que toi, tu connais tellement le dossier que tu prends pour acquis que tous nos auditeurs connaissent le dossier. Quand tu parles de choix de repêchage perdu, c'est choix de première et deuxième ronde pour 2020 et pour 2021, c'est bien ça?
Oui.
L'amende, c'est 5 millions de dollars?
Oui.
OK, parfait. Je voulais juste préciser parce que là, toi, tu es tellement là-dedans puis tu connais tellement ça. Je voulais juste que les auditeurs se rendent compte de l'ampleur. Le DG et l'entraîneur-chef congédié, le directeur-gérant congédié également par les Astros parce que le baseball majeur les avait suspendus pour la saison 2020 au grand complet. Et le dossier qui est en suspens, je pense, avant que tu racontes l'aspect électronique de tout ça, le dossier qui est en suspens, si je comprends bien, c'est celui d'Alex Cora, qui est l'actuel gérant des Red Sox, parce qu'en 2017, il était entraîneur adjoint sur le banc des Astros.
Oui, en plein ça. Puis, tu sais, la nuance qui est importante, c'est que dans le monde du baseball, le vol de signaux est encore permis sur le terrain. T'sais, par exemple, le coureur au deuxième but comprend la séquence du receveur capable de transmettre par une façon ou une autre au frappeur qu'est-ce qui s'en vient. C'est encore, entre guillemets, légal. Ça se peut que tu te fasses atteindre la présence suivante, mais ça, c'est encore légal. Mais les Astros, eux, l'ont fait de façon électronique. Un peu avec bon, une façon de transmettre un code, puis à partir de l'abri des joueurs, que ce soit avec une poubelle ou avec une autre façon de faire les choses, on était capable d'émettre un bruit pour dire aux frappeurs qu'est-ce qui s'en venait. Puis à partir de là, on se disait, tu sais, déjà, c'était pas très bon pour le baseball. Et comme tu as mentionné, Alex Cora était l'adjoint à AJ Hinch en 2017 lorsqu'ils ont gagné la Série mondiale. C'est lui qui, semble-t-il, qui est un des grands manitous de cette histoire-là. Et pire encore, c'est que lorsqu'il est devenu gérant des Red Sox en 2018, semble-t-il qu'il a amené ou instauré un système similaire avec les Red Sox. Et Dan, ce qui fait mal paraître le baseball, c'est que lorsque les Astros ont fait ça en 2017, ils ont gagné la Série mondiale. Et lorsque les Red Sox ont fait le même genre de stratagème, ben eux aussi ont gagné la Série mondiale en 2018, les deux fois contre les Dodgers. Donc, si AJ Hinch a été suspendu pour un an avant d'être congédié, la pénalité risque d'être très, très, très sévère à l'endroit d'Alex Cora, le gérant des Red Sox.
OK. Je lisais une question aujourd'hui. Quelqu'un, je pense, posait la question. Est-ce que c'est assez sévère? Mais en fait, je m'excuse de répondre comme ça, François, mais je me demande comment ça peut être plus sévère que ça.
Ben, j'avais un peu la même réflexion parce qu'on va se comprendre que les choix au pêchage font très, très, très mal. Dans le monde du baseball, aujourd'hui, les gros joueurs coûtent beaucoup d'argent. Ça te prend des joueurs d'impact qui vont venir de tes filiales. Donc ça fait très mal. Le 5 millions, Dan, on s'entend que c'est une bagatelle. Là.
Je veux dire,
les Astros dans un match de série doivent faire pas mal plus d'argent que ça.
Oui.
Ça, c'est vraiment une tape sur les doigts. Mais là où c'est important de taper, je pense que c'était sur la tête des dirigeants. Puis M. Crane, qui est le propriétaire des Astros, a déjà mentionné que lui, lorsque le baseball majeur avait parlé de ses possibilités, il avait averti son personnel qu'il voulait pas voir ça chez les Astros. On dit, le DG est au courant, oui, mais peut-être pas tant que ça. Et AJ Hinch est au courant, avait même demandé à certaines personnes d'arrêter le tout, mais tu sais, il n'y a pas eu le contrôle puis le pouvoir de faire arrêter ça. Et c'est eux qui devaient payer. Parce que là, tu dis, est-ce qu'il y a une équipe, à un moment donné, qui va réengager un AJ Hinch ou un Jeff Lunar, le DG? Ce serait quand même surprenant, à moins qu'évidemment qu'on soit capable de faire la lumière puis de prouver que le gars avait aucun impact là-dessus. Mais c'est difficile de dire qu'est-ce que le baseball majeur aurait pu faire de plus parce que tu peux pas vraiment suspendre des joueurs. Les gens impliqués ont été touchés puis il fallait absolument que tu touches au choix repêchage. Mais évidemment, comme on mentionnait, peut-être que dans le cas d'Alex Cora, lui, ce sera encore plus sévère comme suspension. Mais il y a de fortes chances qu'Alex Cora ne soit plus jamais gérant dans le baseball majeur à la suite de cet incident.
Mais tu me feras pas croire que le propriétaire était pas au courant de rien. Moi, ça m'a fait rire un peu quand j'ai appris hier qu'il décidait de congédier ses hommes de baseball quand le baseball majeur les a suspendus pour 2020. Ça faisait un peu, gars, je vais étasser, là, puis ça va bien aller. C'est comme s'il s'en lavait les mains un peu, là.
Ouais, mais écoute, avec Jim Crane, j'ai peut-être des réserves parce que, tu sais, dans le monde du sport, les directeurs généraux avec les propriétaires n'ont pas tous les mêmes relations. Tu sais, puis je vais te donner un exemple. On disait que dans les entrevues que les Browns de Cleveland faisaient dans les derniers jours avec des futurs candidats pour le poste d'entraîneur-chef, le propriétaire voulait voir le cahier de jeu du gars, tu sais, le propriétaire, là, pas les gens du football, le propriétaire voulait voir le cahier de jeu pour voir à quoi allait ressembler son équipe et comment on allait jouer. Alors que dans d'autres cas, le propriétaire est là pour signer des chèques, s'assurer qu'on fait de l'argent puis il est plus ou moins impliqué. Tu sais, je pense que Jim Crane avait été mis au courant à un certain moment donné. Il a mis son pied à terre pour dire, les boys, j'espère que c'est pas vrai puis mon organisation veut pas être ternie par une histoire comme ça. Tu sais, est-ce que ça s'est vraiment fait? Est-ce qu'il était au courant? Est-ce qu'il avait juste entendu parler? Ça, on le saura probablement jamais. Mais je pense que dans le cas de M. Crane, il est peut-être plus crédible que certains autres dirigeants. Tu sais, si ça avait été, je sais pas, le David Samson puis Jeffrey Loria, on serait tous partis à rire. Mais je pense que M. Crane a un petit peu plus de crédibilité dans le monde du baseball. Puis de toute façon, il a fait ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire de congédier les deux personnes les plus importantes dans ses opérations baseball.
OK. Je prends deux nouvelles du monde du hockey actuellement, puis ensuite va venir ma question. Crosby revient au jeu. Malkin était le chef de file de cette équipe-là. Ils ont très bien fait dans les 28 matchs où Crosby s'est absenté. Et l'autre nouvelle, c'est Niklas Backstrom qui signe une prolongation de contrat de 5 ans pour 46 millions. Lequel des deux, François, est le plus sous-estimé, Malkin ou Backstrom?
Oh, ça, c'est une très bonne question. Mais je pense que je vais prendre Malkin. Écoute, Evgeny Malkin a une carrière tout simplement phénoménale. Peut-être pas, on pourra jamais savoir qu'est-ce qui serait devenu si, je sais pas, les Pingouins avaient décidé de prendre Cam Barker au deuxième rang au lieu de prendre Malkin. On saura jamais qu'est-ce que Malkin aurait fait avec une autre équipe. Mais dans le rôle qu'on lui a demandé, c'est-à-dire d'être un leader derrière Crosby et de vraiment mettre le pied sur la pédale quand Crosby s'absentait. Puis faut s'entendre, c'est quand même arrivé à un certain moment donné à quelques reprises avec les commotions cérébrales. Je trouve que ce qui est arrivé dans les dernières semaines a vraiment fait en sorte de nous faire comprendre que Evgeny Malkin était non seulement un très bon joueur de hockey, mais un bon leader. Il a été blessé au début de la saison. Il a très bien fait quand Crosby s'est blessé. Il a été le meneur. Puis là, Crosby va revenir comme il a fait toute sa carrière. Je pense qu'il va reprendre sa place sans dire un mot. Puis il va continuer à produire. On s'entend, Dan, qu'on ne pourra jamais critiquer les Capitals d'avoir pris Ovechkin à la place de Malkin. Mais si on avait fait l'inverse, on se serait probablement pas trompé non plus parce que c'est toute une carrière qu'il y a eu. Mais dans l'ombre de Ovechkin, parce qu'il a été le choix numéro 2, puis dans l'ombre de Crosby, parce que là-bas, il est le joueur numéro 2 en attaque pour cette équipe-là.
OK. Maintenant, la question qui suit. Lequel est le plus important pour l'autre? Backstrom ou Ovechkin?
C'est une très bonne question. C'est une très, très bonne question, mais tu sais, c'est Ovechkin qui est la pierre angulaire de non seulement de l'attaque, mais de l'attaque massive. Puis j'aimerais ça faire un calcul, puis probablement qu'avec les statistiques, on est capable de faire ça. Mais je serais curieux de savoir, Dan, sur combien de buts, peut-être pas nécessairement toujours un avantage numérique sur un lancer sur réception comme on le connaît, mais sur combien de buts d'Ovechkin, Backstrom a la première ou la deuxième passe, mais que c'est pas nécessairement Backstrom qui a fait le jeu, c'est le lancer d'Ovechkin, c'est sa créativité en attaque, c'est son talent naturel pour marquer des buts. J'ai pas le choix de te dire que c'est Ovechkin qui est le plus important pour Backstrom. Et Backstrom est un très, très bon joueur de hockey. Il passe en arrière d'Ovechkin. Je pense qu'à un certain moment, il passe en arrière de Kuznetsov. Puis même une saison comme cette année, il va passer en arrière de Carlson, qui connaît une saison phénoménale, qui va peut-être gagner le trophée Norris. Fait que tu sais, ça a toujours été un gars qui a été dans l'ombre, mais je pense que ça n'a rien enlevé à Backstrom. Un bon joueur de hockey qui joue avec Ovechkin pendant 5, 10, 12 ans va récolter sa part de points. Il n'y a aucun doute là-dessus.
OK. Alexander Ovechkin s'en va tout droit au temple de la renommée. C'est sûr que depuis qu'on a nommé Guy Carbonneau, les critères, j'ai de la misère un peu à connaître les vrais barèmes. Mais est-ce que pour toi, Niklas Backstrom s'en va au temple de la renommée, François?
Oh, écoute, c'est vraiment, vraiment... En bon français, on va dire borderline. Je pense que la suite de sa carrière va probablement nous donner une indication, mais moi je pense qu'il est vraiment sur la limite. C'est un gars de 70-80 points par année. C'est un gars souvent de 20 buts, 60 passes, puis comme on mentionnait tantôt, parce qu'il récolte énormément de points sur l'avantage numérique sur les buts d'Ovechkin. Je te dirais qu'en date d'aujourd'hui, je ne pense pas qu'il est un membre du temps de la renommée. Mais quand tu regardes les statistiques dans l'ensemble, puis avec le nouveau contrat qu'il signe, qui te fait dire qu'il va jouer peut-être encore plusieurs années à Washington, qu'il va assurément dépasser les 1000 points. Il va falloir, je pense, reconsidérer le tout quand on va arriver à la fin de sa carrière. Mais c'est tellement pas un gars qui est spectaculaire, qui est en avant-plan. C'est pas le gars qui prend la pole puis qui a le spotlight sur lui, que ça me fait hésiter. Mais je reste convaincu que quand il va prendre sa retraite, les statistiques vont peut-être le faire entrer parce que c'est un gars qui va récolter peut-être, écoute, 1 200, 1 300 points dans la Ligue nationale, ce qui est assez incroyable.
OK. Dans les dernières années, François, il y a des clubs qui, en saison régulière, se sont démarqués. Je pense aux Capitals de Washington. Justement, on en parle avec Backstrom et Ovechkin. Je pense au Lightning de Tampa Bay l'année dernière. Si je te demandais en date d'aujourd'hui, on est à peu près à 5 semaines de la date limite des transactions. Si je te demandais en date d'aujourd'hui, est-ce que tu es capable, sans hésiter, de me nommer la meilleure équipe de la Ligue?
De la Ligue, là. Oh boy, ça, c'est une très, très bonne question. Puis, tu me poses la question vite de même, je suis pas capable de te répondre, mais je continue de croire au fond de moi que l'équipe la plus talentueuse, la meilleure équipe, c'est le Lightning de Tampa Bay. Okay. Je pense qu'ils l'ont prouvé dans le dernier stretch là, qui a été assez incroyable.
Ouais.
J'ai beaucoup de respect pour les Bruins de Boston, pour les Capitals de Washington, les Blues de Saint-Louis qui ont eu une très bonne séquence aussi. Dans la division Pacifique, je suis un peu plus modéré parce qu'on dirait qu'il n'y a pas vraiment une équipe qui est capable de sortir du lot. Mais j'ai pas le choix de te dire que l'équipe la plus talentueuse, c'est le Lightning de Tampa Bay. Mais ça veut pas dire nécessairement que c'est la meilleure équipe pour autant. Mais tu vois que depuis environ 2 à 3 semaines, c'est en train de redevenir l'équipe qu'on avait vue l'année passée puis qui avait tout saccagé sur son passage en saison régulière.
OK. Probablement que comme tous les amateurs de hockey de la planète, t'es parti à rire quand t'as vu Brad Marchand manquer la rondelle au centre de la patinoire pour son tir de barrage. Et ça m'a amené une réflexion et je me suis dit, si Mitch Marner ou Sidney Crosby avaient vécu exactement la même chose, on aurait un peu eu pitié d'eux autres. Marchand, personne n'a pitié de lui parce que c'est un détestable.
Puis je pense que tout le monde est parti à rire. Puis, si tu m'avais donné le choix dans la ligue là, de 2 ou 3 joueurs pour faire une gaffe de même, je t'aurais dit Marchand, Wilson, puis peut-être un catch-up ou quelque chose comme ça, comme à un moment donné, tu veux qu'il ait l'air fou un peu, puis ça fait presque plaisir. Puis, tu sais, il fallait qu'il marque pour que ça se poursuive. Il manque son coup. Ça arrive à Philadelphie, puis écoute, tout le monde s'est moqué de lui. Mais je sais pas si tu as vu ce que Marchand a posté sur Twitter aujourd'hui. C'est une photo de lui en train d'embrasser la Coupe Stanley. C'est tout ce qu'il a mis en voulant dire à tout le monde. M'avait écœuré depuis hier, puis les gens se sont gâtés, puis pas à peu près. Lui, il a mis juste une petite photo de lui en train d'embrasser la Coupe Stanley, mais c'était quand même un moment mémorable, puis ça va faire des top 5 puis des top 10 pour des années et des années à venir. Mais puis j'ai trouvé ça drôle, Dan, puis tu sais, t'es un officiel aussi, mais c'est le genre de jeu qu'on voit, tu sais, c'est tellement rare, même dans le hockey mineur, que tu sais, la première réflexion, c'est oh, y a-tu le droit d'en virer de bord, ouais. y a-tu le champ rondelle, qu'est-ce qu'il a le droit de faire, c'est pas quelque chose qui arrive régulièrement. Mais il fallait que ça arrive à Marchand. Puis je pense que tout le monde a eu un petit sourire quand c'est arrivé à un ou sinon le joueur le plus détestable de la Ligue nationale.
Si vous voyez comme il faut la reprise, la rondelle bouge.
Oui.
Il accroche légèrement la rondelle. Puis les officiels se sont consultés, mais ça n'a pas dû être très long comme discussion. C'est évident qu'on ne peut pas revenir en arrière dans un tir de barrage.
Non, mais j'avoue que tu sais, c'est arrivé un samedi matin à 8h15 d'un novice B. C'est des choses qui peuvent arriver, que tout le monde va rire, tout ça, mais dans un match de la Ligue nationale avec un des meilleurs marqueurs de la Ligue, de faire une bévue comme celle-là, c'était phénoménal à voir.
Absolument. Dernier point sur lequel je veux m'arrêter avec toi, c'est le fait que le Canadien se retrouve dans une drôle de situation à 7 points des séries puis à 8 points du 30e rang. C'est quand même un dilemme pour Marc Bergevin, bien que il y a beaucoup d'amateurs qui ont abandonné pour cette année. Lui, comme DG, il n'a pas le droit ben d'abandonner, à moins que là, il arrive le 22 février, puis il échange Tatar puis Petrie contre des choix de repêchage, on va comprendre qu'il abandonne. Mais ça se peut que les prochains matchs l'influencent encore, non?
Ah, sûr et certain. Sûr et certain, puis moi, je fais partie de ceux qui espèrent beaucoup plus pour le 30e rang que pour essayer de se battre pour les séries. Tu sais, t'as demain un back-to-back, comme on dit, le Chicago-Philadelphie. Chicago, une équipe qui n'a pas une grande saison. Philadelphie vient de perdre de Carter Hart, peut-être pas sur la liste des blessés, mais il est blessé au bas du corps. Il sera pas là jeudi, probablement. Là, tu te dis, écoute, si tu gagnes ces deux matchs-là, tu vas te chercher un 4 points. Tu sais, ça va quand même faire en sorte que ça va faire réfléchir l'organisation. Mais moi, je continue de croire, c'est énorme quand tu es à 7 ou 8 points des séries à ce stade-ci de la saison, avec un club qui, qui doit fermer le jeu pour gagner des matchs à peu près la seule façon. Tranquillement, tu vas peut-être avoir du renfort, mais moi, je continue de croire que tu te dois d'être vendeur. Le DG n'a pas le droit de le dire. Les joueurs réagissent quand même bien. Tu sais, après la série de 8 revers, ils ont quand même joué du meilleur hockey contre Ottawa puis Calgary. Mais je pense qu'il faut que tu continues d'être vendeur. Puis la question est toujours de savoir, un gars justement comme Petrie est un bel exemple, gagne, tu sais, quand même, oui, beaucoup d'argent, mais son contrat est quand même à la veille de se terminer. Il y a encore une belle valeur. Tatar est un bel exemple. Puis pas juste dire, je sais pas, le Nate Thompson puis Nick Cousins pour des 6 puis des 7. Je pense que Price puis Weber, on le sait presque tous que ça arrivera pas. Mais il y a des bons joueurs dans le milieu qui pourraient te permettre de mieux reconstruire et peut-être aussi de t'en aller plus vers le bas que vers le haut. Mais je pense que la prochaine semaine, Dan, peut-être les deux prochaines semaines, puis après ça, il va falloir prendre des décisions qui risquent d'être très difficiles.
Parfait. Merci, François. Bonne soirée à toi.
Bonne soirée. Merci.
Je vous rappelle la semaine du Canadien, c'est demain au Centre Bell contre les Blackhawks, jeudi à Philadelphie contre la mascotte et les Flyers. Il fait partie de l'équipe maintenant, la mascotte Gritty. Et samedi, c'est les Golden Knights de Las Vegas et Max Pacioretty, celui qui est devenu le mal-aimé à Montréal, mais qui a une excellente saison avec les Golden Knights. Ça en va même au match des étoiles à Saint-Louis dans quelques jours. Donc, c'est la semaine du Canadien, après quoi ce sera une pause jusqu'au lundi 27 janvier prochain.
FM 93. Ready? L'avant-match.
De retour après la pause.
Quand t'es sur le chantier, pis que t'as mal aux pieds, écoute donc ce qu'ils ont à dire.
Va donc chez les orthésistes du pied de Québec.
Ils vont te fabriquer une botte ajustée à ton pied. Les orthésistes du pied de Québec, 375 rue Soumande, piedquebec.com.
À Québec,
c'est l'année du bon pied. Partez avec la Subaru Crosstrek 2020. Une location de 48 mois à seulement $77 par semaine, pas de comptant. $77 par semaine seulement. Définitivement la meilleure offre de la semaine sur le marché. Subaru, confiance et évolution. Détails sur place, avenue Galibois, par la sortie Pierre-Bertrand.
Ne manquez pas la foire du patin à vos entrepôts du hockey. Vous y trouverez des patins à prix dérisoire pour hommes, femmes et enfants. Comme des patins juniors à partir de $49,99. Jusqu'à dimanche seulement, à vos entrepôts du hockey de Québec, l'ancienne Lorette et maintenant à Lévis, aux Galeries Chagnon.
Venez créer votre duetto chez Toujours Max en combinant deux plats parmi 140 combinaisons possibles à partir de seulement $9,99. Toujours Max.
Le 24 janvier au Capitole, voyez l'ultime célébration de Kiss, le spectacle Orchestra. Sur scène, le groupe Kiss et le Big Ben Orchestra de 12 musiciens. Orchestra le 24 janvier. Billets lecapitole.com. Collaboration FM 93.
Chérie, on va à la plage, viens-tu?
Oh, pauvre toi.
Mais c'est sûr que si t'étais allé chercher tes médicaments pour le voyage comme je te l'avais suggéré, tu te sentirais peut-être pas si... C'est ça.
Vous partez bientôt en voyage? Votre pharmacien propriétaire affilié à Pharmaprix peut vous prescrire des médicaments pour traiter des maladies comme la diarrhée du voyageur. Ne ramenez que de bons souvenirs. Visitez pharmaprix.ca/voyage pour tous les détails.
Quand t'es rendu que tu mets du sel de mer dans ton bain et que tu vas à l'épicerie en slown, c'est que t'es dû pour le voyage à Dubaï. Une semaine au Grande Baía Principe Aquamarine à Punta Cana du 3 au 10 avril avec Transat. Et je serai de la partie. Réservez vos places en téléphonant chez Club Voyage Montmagny ou Saint-Jean-Chrysostome. Ou encore, gagnez vos places ou votre achat. Inscrivez-vous sur fm93.com ou textez SUD au 25226. Un cadeau de Club Voyage Montmagny et Saint-Jean-Chrysostome, Transat et du FM 93.
Voler la vedette au karaoké, c'est pas toujours facile. Mais vendre sa maison avec un courtier Proprio Direct, ça c'est facile.
Vous avez besoin de pièces pour votre voiture? Pièces d'auto économique vous offre toutes les grandes marques nationales au meilleur prix. Pourquoi payer trop cher ailleurs? Pièces d'auto économique, c'est maintenant 5 magasins, dont un tout nouveau à Saint-Georges et une boutique en ligne à pièceséconomique.com.
Pour un temps limité chez Paquette à Lévis, financez votre nouvelle Mitsubishi 2020 à essence à 0% sur 60 mois. Dépêchez-vous d'en profiter chez Paquette Mitsubishi à Lévis.
C'est le retour des incontournables à 10$ dans les restaurants Boston Pizza. Jusqu'au 2 février, venez savourer de délicieux plats comme les raviolis gratinés aux 7 fromages, le pizza Getty ou nos fameux fettuccini jambalaya à 10$. Oui, oui, seulement 10$. Que ce soit en famille ou entre amis, Boston Pizza, c'est la destination pour passer un bon moment ensemble. Faites vite, l'offre des incontournables à 10$ se termine le 2 février. Boston Pizza, c'est bon d'être ensemble. Détails en restaurant.
FM 93, le 93 pourrait faire de vous un gagnant.
Vous entretenez une patinoire derrière la maison? Inscrivez-vous sur fm93.com ou sur Facebook et vous pourriez voir débarquer chez vous
l'Escouade Boom!
L'équipe du FM 93, la bouffe de Quesada et les breuvages, et on va jouer une partie sur votre patinoire. Une collaboration de Budweiser.
Restez branchés au FM 93 pour votre chance de gagner.
Vous songez à acheter une maison? AlexandreWallet.com.
Avant de visiter, AlexandreWallet.com.
Avec les nouvelles règles hypothécaires en vigueur, il est primordial d'être bien conseillé. AlexandreWallet.com vous explique en détail le nouveau programme gouvernemental pour la mise de fonds. Achat zéro comptant, remise en argent.
Il négocie votre achat, vous obtient le plus bas taux d'intérêt et paye votre notaire.
Avant de visiter, soyez bien informé. AlexandreWallet.com.
Il s'occupe de tout et paye votre notaire.
AlexandreWallet.com.
L'avant-match. C'est le sport local, provincial, national, international, interplanétaire, sous toutes ses facettes. L'avant-match.
Dans l'avant-match,
voici
Louis-Jean.
Salut Louis, comment vas-tu?
Ça va bien, toi, Dan?
Oui, ça va bien, ça va très bien. Est-ce que, et là, je suis très content de parler à un gars qui habite la rive nord de Montréal et qui travaille au centre-ville. Comment ça se passe à Montréal depuis que le Canadien gagne? Et là, tu vas dire, t'es baveux, là, ils en ont perdu 8 de suite, puis là, t'es en train de dire qu'ils gagnent tous leurs matchs. Non, c'est que, souviens-toi, Louis, il y a à peu près 10 jours, les gens parlaient pourcentage à la loterie, puis Alexis Lafrenière, on le trouve bon, puis on veut l'avoir. Puis là, le Canadien gagne à Ottawa, Kovalchuk marque le but gagnant. Hier, jeu blanc contre Calgary. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, les gens à qui t'ont parlé plus de série que de loterie.
Oui, tu as tout à fait raison. Et même hier, à l'émission de Dave Morissette, Dave a posé la question, est-ce qu'il y a encore une chance? Est-ce que ça... Faut arrêter, là, je veux dire, à mi-chemin de la saison, tu sais ce que ton équipe est. Est-ce que c'est une équipe vraiment que tu crois en elle, qui a des chances vraiment, ou est-ce que c'est une équipe qui va se battre jusqu'à la fin, mais que ça va être difficile, ou est-ce que... Non, le Canadien, on le sait. Le Canadien ne fera pas des séries cette année. C'est la réalité de cette équipe-là. Le Canadien de Montréal vient de gagner 2 matchs, mais de peine et de misère. Ils ne sont pas capables de marquer des buts, mais c'est la réalité, c'est ça. Il y a 56 000 facteurs. Alors, pour ceux et celles qui se lèvent après une victoire et disent « Là, on a une chance! » Et après 8 revers de suite, ils disent « Ah, ben là, c'est terminé. On essaie d'aller gagner le derby, Lafrenière. » Non. Je veux dire, le Canadien de Montréal, ils sont exactement ce qu'on s'attendait d'eux. Une équipe qui, on croyait allait se battre, les blessures ont venu compliquer à patente. C'est des joueurs qui ont superformé. Et non, on oublie ça, là, il n'y aura pas de série cette année.
OK, donc pas de série, ça veut dire échanger des joueurs d'impact. Tu sais que j'ai été sévère dans les dernières années envers Marc Bergevin. Si Marc Bergevin, d'ici le 24 février, ou l'été prochain, ou la saison prochaine, avant la date limite des transactions, échange Carey Price, je dirais en onde que Marc Bergevin est un excellent directeur général.
Mais là, il y a juste une chose que tu ne mentionnes pas. Tu t'ouvres à une zone grise. Est-ce que Marc Bergevin va aller voir Carey Price pour l'échanger? Je ne pense pas. Je pense que Marc Bergevin, lui, il est encore en poste parce qu'il dit à son propriétaire, fais-moi confiance, je vais ramener l'équipe sur les rails. Et la manière que je vais le faire, c'est en gardant le 31 devant le filet, c'est en gardant le 6 à la ligne bleue. Alors, est-ce que Carey Price pourrait être celui qui va voir l'équipe? Ça, c'est différent. Moi, je ne vois pas un scénario où le directeur général décide lui-même, sais-tu quoi, pour le bien de l'équipe, à long terme, il faut que je change Carey Price. Je ne vois pas ça arriver.
Pourquoi, Louis,
je
selon
pense
toi?
Que c'est pas du tout.
Pourquoi, Louis, selon toi, il ne fera pas?
Parce que, premièrement, ça serait clairement un constat d'échec. Je pense que en termes, c'est de valeur, là, tu devrais pas prendre des décisions comme ça. Tu devrais pas dire, écoute, là, hey, j'avais dit que je le ferais de cette façon-là, puis ça marche pas, mais là, hein, je vais avoir l'air de quoi. Mais je pense que ça paraîtrait, là, ça démontrerait que le plan ne fonctionne pas. Le deuxième plan qui est en train d'essayer d'exécuter actuellement ne fonctionnerait pas plus. Ce serait ça, essentiellement. Alors, lui, la légitimité qu'il a comme directeur général, je pense qu'il la perdrait. Et la confiance, peut-être aussi, auprès du propriétaire. Je dis ça, je te dis ça, là, c'est moi qui analyse froidement la situation. On me l'a pas dit, mais je sais une chose, que lui, son plan tourne autour de on essaie de faire des séries à tout prix, on essaie d'entrer des jeunes, on essaie de ne pas se tromper dans nos transactions, dans nos sélections en repêchage et dans notre développement. Et c'est comme ça qu'on va devenir compétitif. Et je comprends un peu aussi sa logique. Il juge que lui, il a le meilleur gardien au monde. Au moins, il y a ça. Au moins, il y a ça, selon lui, qui se dit on est meilleur que tout le monde dans une chose, le goaler. Là, tu peux me dire, il n'a pas bien joué le gardien de but en partie cette année. T'as raison, mais ça change pas le fait qu'à son meilleur, quand il performe comme il est supposé faire, il mérite son 10,5 millions par année. Maintenant, on peut commencer à débattre de tu devrais-tu payer un gardien tant que ça? Ça, c'est une autre affaire.
Non, ça, c'est une autre affaire.
Mais lui, il s'est dit, c'est une autre affaire.
On
mais
va
lui,
pas là ce soir.
Garde,
on
j'ai
va
deux
pas là.
Affaires. Okay. J'ai deux choses, moi. J'ai un capitaine puis un leader, un vrai de vrai. Oui. J'ai un gardien de but. Alors, je vais bâtir autour de ça.
Par contre, les discussions dans les bars sportifs à la grandeur du Québec, de Rouyn-Noranda à Gaspé en passant par Trois-Rivières-Ouest, c'est toujours les mêmes. Ta boîte de courriel est pleine, la mienne est pleine également, d'amateurs de hockey qui nous disent « Dan, Louis, Marc Bergevin nous dit qu'il va être bon dans 3-4 ans, mais dans 3-4 ans, son goaler et son capitaine vont être trop vieux. Donc, pourquoi ils les échangent pas maintenant pendant qu'ils ont une valeur? »
Ça, c'est la grande question et c'est là où moi, je ne comprends pas. Je vais t'avouer, là, je regarde cette équipe-là aujourd'hui. Mettons, j'achetais le plan en début de saison, je me dis, OK, je comprends. On va voir ce que ça va donner. Mais là, à la lumière de ce qu'on voit maintenant, on est à la mi-saison, je me dis, garde, va chercher quelque chose. T'as ton capitaine là, qui s'en va au match des étoiles. Sa valeur, ça veut dire quoi, Dan? Qu'elle est bonne actuellement? Ça veut dire qu'il joue bien? Puis, il n'a pas volé là, son poste. Il n'a pas volé sa candidature. Alors, moi, je comprends ce qu'il apporte dans le vestiaire. Je comprends encore ce qu'il apporte sur la glace chez Weber. Je comprends aussi ce que Carey Price peut être. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec les partisans qui se disent « ça me semble être un non-sens ». Parce que la réalité, là, est-ce que je crois que le Canadien va gagner la Coupe cette année? Non. Est-ce que je pense que le Canadien va la gagner l'année prochaine? Non. Est-ce que je pense que le Canadien va la gagner dans 3 ans? La réponse est encore non. Alors, pourquoi tu gardes des gars comme ça qui, dans 4 ans, peut-être vont pouvoir t'aider à gagner le Coupe Stanley? Est-ce que tu crois que Weber va vraiment être encore capable de contribuer puis de jouer 26 minutes, 25 minutes par match? Est-ce que tu penses que Carey va pouvoir en jouer 65 par année encore rendu là et être dominant? Sincèrement, c'est là-dessus où moi, je me dis, ça ne fit pas, ça marche pas.
Exact. Surtout que si on ajoute... Si on ajoute 4 ans, parce que là, les 3 premières années, tu as répondu non à ta propre question. Donc, si on ajoute 4 ans à 32 ans, ça donne 36. Puis si on ajoute 4 ans à 34 ans, ça donne 38 pour Weber.
Exact. Exactement. Alors, je veux dire, c'est pour ça que je me dis, je sais pas si on s'entête ou si on se dit, garde, on est capable de... Et on mise énormément sur le repêchage. On en a parlé la semaine passée. Peut-être qu'on se dit, on n'a pas le choix cette année au repêchage de trouver une façon d'être convaincant, d'aller chercher des joueurs autonomes le 1er juillet, d'avoir un repêchage où on fait quelque chose qui va être extraordinaire, des feux d'artifice. Mais, tu sais, on croit-tu au Père Noël? Est-ce qu'on, je veux dire, je sais pas trop, là. C'est là où, moi, je connais pas les plans à l'interne. Je sais pas tout ce qui a été étalé, mais ce que je vois actuellement, j'ai de la misère à comprendre où ça va aboutir.
OK. Les deux séquences de 8 défaites, c'est évidemment pas commun, puis c'est rare qu'un entraîneur-chef garde son emploi au sortir de 2 séquences de 8 défaites, mais tout le monde a l'air d'avis que c'est pas de la faute de Claude Julien, et je fais partie de ces gens-là. Parfait. Donc, c'est pas de la faute de Claude Julien, il faut que ça soit de la faute de quelqu'un. On va se tourner vers Marc Bergevin, mais ça, on en a déjà parlé en onde. Je veux juste insister sur le fait que j'ai l'impression qu'Alexis Lafrenière, le fait que ce soit un Québécois, que le repêchage soit présenté le 26 juin au Centre Bell cette année, comme par hasard, le timing est parfait pour le jeune Lafrenière, j'ai l'impression que cette vision de voir l'équipe descendre et l'espérance que le Canadien parle le plus rapidement possible au repêchage, c'est comme si c'est venu faire distraction à la mauvaise saison du Canadien et on oublie de voir que le Canadien n'a pas de profondeur finalement. Au camp d'entraînement, on nous vendait l'espoir par les jeunes. On nous disait, ah, oh, Kotkaniemi, Suzuki, Fleury, Poehling, ça va bien aller. Le Canadien de la profondeur, ça déborde à Laval. Ils font un fil, prendre le métro pour s'en venir au Centre Bell, les joueurs du Rocket. Mais finalement, le Canadien n'a pas de profondeur. On a la preuve cette année, aussitôt que Drouin et Byron ont été blessés, ça a été la fin pour le Canadien. Ça, c'est un drame. Et à ce drame-là, il faut viser Marc Bergevin.
Oui, ben, je veux dire, c'est clair qu'il est responsable d'avoir... d'avoir établi une culture, d'avoir été chercher des joueurs, d'avoir bâti une équipe. Est-ce que le développement faisait défaillance? Je pense qu'à ses débuts, oui, aucun doute. C'est quelque chose à laquelle on s'est attaqué clairement maintenant. Juste pour répondre au début de ta question, tu parles de Claude Julien, j'abonde dans le même sens que toi, là. Si les Canadiens de Montréal se faisaient planter 8-1 à tous les soirs, ce serait une chose. Si le Canadien, tu voyais qu'il n'y avait pas de structure ou de système de jeu, ça serait une chose. Ce ne sont pas les indicateurs qu'on a. Alors, on vient de régler la question sur Claude Julien, même si en même temps, quand tu perds 8 de suite, tu pointes le doigt au directeur général, tu pointes le doigt aux joueurs, aussi inévitablement, il faut que tu pointes le doigt à l'équipe d'entraîneurs. Ça fait partie de la business, c'est normal. Maintenant, la profondeur, c'est sûr que c'est un peu problématique, mais quand tu décides d'y aller avec des jeunes, c'est pas comme si... Moi, ce qui me fait rire, c'est que tu repêches Kotkaniemi et tu as l'impression qu'en cliquant des doigts, ce gars-là, parce qu'il est troisième au total, il va dominer. Tu as l'impression que parce que Ryan Poehling, l'année passée, il est joueur par excellence au championnat junior et puis il arrive à son premier match dans la Ligue nationale de hockey, il fait tout feu, tout flamme, tu vas cliquer des doigts et ce gars-là, qui n'a jamais marqué avant, va devenir un joueur, une star offensive. Je veux dire, à un moment donné, il faut être réaliste. OK? On ne vit pas dans un monde de rêve, c'est pas Hollywood où on écrit des scénarios qu'on veut et puis la fin va toujours être heureuse. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Développer des joueurs, ça prend du temps. Donner des chances aux jeunes, ça veut dire qu'ils vont commettre des erreurs. Ça veut dire que tu vas probablement être frustré souvent au début avant qu'ils finissent par comprendre ce que c'est la Ligue nationale de hockey, ce que c'est la meilleure ligue au monde. Alors, c'est pour ça. Alors, tu sais, oui, il y a nettement plus de profondeur qu'il y en a eu. Il n'y en a jamais autant que le monde le pensait, ça, c'est certain.
Quatrième saison sur cinq où l'équipe va manquer les séries. Pour vous, à TVA Sports, évidemment, c'est un drame parce que vous êtes détenteur des droits pour les matchs des séries particulièrement et pour les matchs du samedi en saison régulière. Il y avait des bancs vides jeudi dernier contre les Oilers et un certain Connor McDavid qui était de passage. Là, les défaites accumulées année après année, ça va commencer à paraître au niveau financier pour le Canadien.
Ça va paraître, c'est sûr. Moi, je suis convaincu qu'on est là depuis un certain temps. Je veux dire, le problème, au-delà de tout ça, là, au-delà du côté business et tout ça, c'est dans le cœur des partisans, tuer encore l'équipe du peuple, tuer encore l'équipe qui est dans les tripes. Ça demeure, là. C'est au-delà de l'impact de Montréal, c'est au-delà des Alouettes. Ça, je pense que c'est indéniable. Mais il commence à y avoir un pourcentage, un groupe de fans qui sont un peu résignés, qui commencent à se dire, regarde, là, c'est ça le Canadien. Le Canadien, c'est plus l'équipe qui a gagné 24 Coupes Stanley, puis ils sont rendus au point qu'ils disent, regarde, on va aller au Centre Bell, non pas pour voir le Canadien, on va aller au Centre Bell quand on a la chance de voir Connor McDavid, ou Sidney Crosby, ou Alex Ovechkin, ou Nathan MacKinnon, et ça devient très dangereux. Quand tu arrives au point où le monde ne va plus te voir pour regarder leur équipe, ils vont là pour voir l'autre équipe, c'est un problème. Et c'est là que je pense que le Canadien, il y a une prise de conscience qui doit se faire. Tu ne peux plus te permettre de faux pas comme organisation. Tu dois rebâtir et tu dois surtout espérer que, ce que tu mentionnais tout à l'heure, le plan que tu as décidé de bâtir autour de Price et Weber, c'est mieux de ne pas te tromper parce que ça pourrait te faire mal pour des années à venir.
Oui, puis, tu sais, à un moment donné, les partisans qui boudent le Centre Bell, c'est parce qu'ils sont tannés que l'équipe perde. S'il y a 3-4 ans, je t'avais dit, le DG Marc Bergevin va décider volontairement de garder un montant variant entre 6 et 9 millions de dollars sous le plafond pendant 3-4 saisons. Tu m'aurais dit, ah, c'est impossible, Dan. Le Canadien, c'est une équipe riche, c'est une équipe qui dépense, c'est une équipe qui donne de bons contrats. Ils vont s'arranger pour être compétitifs. Il y a une tradition d'excellence. Impossible que Bergevin fasse ça. Avoue, Louis, si je t'avais dit ça il y a 5 ans, tu m'aurais dit, ça arrivera pas 3 ans de suite où il va y avoir un 6, 7, 8 millions sur le plafond de disponibles dans le compte chèque. Pourtant, c'est ça qui vient d'arriver.
C'est ça qui vient d'arriver, mais je ne pense pas qu'on le fasse. Et là, je suis peut-être naïf, là. Corrige-moi si tu penses que je suis complètement dans le champ gauche. Mais je pense pas que le Canadien le fait pour dire, regarde, on n'est pas compétitif, on gagne pas, mais au moins, on sauve de l'argent. Je pense pas que ce soit ça le bien fondé. Je pense que c'est parce qu'on n'a pas vu les opportunités, on n'a pas été capable d'attirer les joueurs qu'on aurait souhaité attirer, et on veut pas se tromper. Et ça, de ce côté-là, honnêtement, c'est sage. Tu sais, je vais faire un parallèle. Les Sénateurs d'Ottawa, il y a quelques années, se rendent en finale de conférence. Tu te rappelleras, 7e match en prolongation contre les Penguins de Pittsburgh. Ce club-là, avec le propriétaire, c'est un club qui fait extrêmement attention à ses sous. Tu peux pas me dire que les Sénateurs n'auraient pas pu, eux autres, faire appel et utiliser un joueur de 6 ou 7 millions ou deux joueurs de 3,5, mettons, qui les auraient peut-être aidés à aller en finale cette année-là. Mais le propriétaire, lui, jugeait non. On va garder le 8 millions, je le mets dans ma poche.
Oui, mais
le Canadien n'aurait pas fait ça.
Non, mais ça, c'est une situation où les Sénateurs en arrachent. Il n'y a personne dans l'aréna et tout. Le Canadien, c'est une équipe riche.
Non, mais écoute, cette année-là, ils sont quand même allés en finale de conférence. Et il y avait un gars qui s'appelait Eric Carlson. Il y avait Mark Stone. Il y avait une bonne équipe. Il y avait Derek Brassard qui venait d'aller chercher. Ce que je veux dire, c'est que cette équipe-là avait des éléments. Et il y avait des choses extrêmement, extrêmement intéressantes. Il y avait des chances. Il y avait vraiment une chance. Et il essayait aussi d'attirer, de garder leur joueur vedette qui s'appelle Eric Carlson, qui est rendu maintenant avec les Sharks de San Jose. Le Canadien ne ferait pas ça.
Mais
le Canadien est assez lucide pour voir, on n'est pas là, on va pas gaspiller de l'argent. De ce côté-là, je vais t'avouer là qu'il faut que tu t'assures. Je dis pas qu'il n'y aurait peut-être pas dû trouver une façon, mais je pense que tu es mieux de prendre des bonnes décisions au lieu de te tromper et de donner, mettons, trop d'argent à un joueur. Un Radulov que des fois on voit à Dallas, des fois il n'a pas l'air motivé, ben, est-ce qu'on l'aurait regretté, celle-là? Je le sais pas.
Probablement. Moi, je faisais partie des gens qui pensaient que 5 ans, c'était trop pour Radulov. Il restait deux ans de jus dans la canne de jus d'orange. Sauf que là où on se rejoint pas, Louis, sur ce sujet-là du 7 millions qui reste sur le plafond, quand tu dis que c'est sage de pas dépenser l'argent si on réussit pas à la dépenser de la bonne façon, moi, je trouve à l'inverse que ça envoie un mauvais message aux partisans. Les gens qui paient ton billet très cher pour aller voir ton équipe, ils ont l'impression que ton DG ne fait pas les efforts pour améliorer l'équipe dans une séquence où l'équipe va manquer les séries 4 fois sur 5.
Mais le problème avec ça, c'est que si tu... Je comprends, là, je suis parfaitement d'accord. Tu sais, sur le fond, OK, parfait. Mais ce que tu essaies de faire, et Marc Bergevin, sincèrement, lui, sa vision, c'est « je veux le faire de la bonne façon. Je me suis trompé, puis je me suis trompé plusieurs fois, là, depuis le début de mon règne ici à Montréal. » Là, j'ai quelque chose en tête. Là, je vois le plan, là, et je vais l'exécuter. Et je ne peux pas juste donner un anan aux partisans juste pour leur donner un anan. C'est pas ce que je veux faire. Ce que je veux faire, c'est que si j'amène un gars, je l'amène pour les bonnes raisons. Si je signe un joueur, c'est parce que je pense que ce gars-là, il cadre dans ce qu'on veut faire à moyen, à court et à long terme. Et je pense vraiment, écoute, sincèrement, je pense que Marc, là, il y a bien des choses qu'il pourrait faire qui l'aiderait en termes de sa cote populaire. Puis préfère pour peut-être mieux paraître par moment. Puis c'est-tu quoi? Il se dit non. Je vais le faire, moi, vraiment, ce que je crois être la bonne décision pour l'organisation, que je sois là ou non. Et ça, je suis convaincu de ça. Mais on n'a pas nécessairement besoin d'être toujours d'accord avec la philosophie, d'accord avec l'approche, mais je pense que lui, là, il est convaincu de ça et il va vraiment prendre la meilleure décision pour l'organisation, même s'il est mis dehors demain matin.
Je comprends. Mais on est dans une business de résultats. J'y souhaite d'être encore là dans 3-4 ans quand il dit que son équipe va être bonne.
Mais c'est-tu quoi, les résultats, là? Les résultats, il faut qu'il les mette de côté pour 3 ans. C'est ça la vraie réalité dans tout ça.
C'est trop long.
C'est pour ça que moi, je me dis, pourquoi Price, pourquoi Weber encore? Trop long, c'est pas trop long. Je veux dire, si tu veux bien repêcher puis bien développer, là, Paling, il va être bon à 24 ans. Puis
il y a rien qui nous garantit. Un instant, il n'y a rien qui nous garantit que Paling va être bon dans 24 ans. Ça, c'est ce que Marc Bergevin souhaite.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu les as bien repêchés, si tu crois en ces gars-là, ils ne sont pas supposés avoir un impact aujourd'hui. Ce n'est pas là qu'ils sont supposés de vraiment devenir tes leaders, tes gars qui marquent à tous les soirs. C'est dans 2-3 ans d'ici.
Mais y a
c'est
rien,
ça que je veux dire.
Oui, mais il n'y a rien qui te garantit qu'il va avoir un impact tous les soirs dans 3-4 ans.
Non, mais c'est pour ça qu'il faut que tu bâtisses une équipe. Bon, je te parle de Paling, je te parle de Kotkaniemi, de peut-être Cole Caulfield qui va arriver, des autres. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, si tu bâtis une équipe, il y a un choix, McKinnon, il va pas bien, c'est Rantanen qui fait le job, ou c'est Landeskog, ou c'est un autre.
Hey, attends pas, t'es pas en train de comparer Peerling puis Caulfield à McKinnon puis Rantanen?
Non, ce que je veux dire, c'est que je te parle d'une équipe. Je te parle d'une équipe. Ben non, je suis en train de comparer Peerling à ces gars-là. Prends tout, pas pour 2 secondes. Peerling, c'est un troisième trio.
OK, garde-toi ça pour lundi prochain. Bonne soirée, Louis.
C'est bon, merci, Dan.
Salut, bye.
Au FM 93. Ready? L'avant-match.
De retour après la pause. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a de la neige et une bordée de youhou! Réservez votre séjour en ski au saguenaylacsaintjean.ca.
C'est le retour des incontournables à 10$ dans les restaurants Boston Pizza. Jusqu'au 2 février, venez savourer de délicieux plats comme les raviolis gratinés au 7 fromages, le pizza ghetti ou nos fameux fettuccini jambalaya à 10$. Oui, oui, seulement 10$. Que ce soit en famille ou entre amis, Boston Pizza, c'est la destination pour passer un bon moment ensemble. Faites vite, l'offre des incontournables à 10$ se termine le 2 février. Boston Pizza, c'est bon d'être ensemble. Détails en restaurant.
Hey, Nissan, j'arrive au salon de l'auto. Je sais ce que je veux, mais je suis pas sûr. C'est soit le Kicks ou le Qashqai.
Les deux ont des super bonnes offres.
Ouais.
Oui. Vous obtenez 3 mensualités à nos frais, jusqu'à 1 000 $ maximum, à la location ou au financement d'un Kicks ou d'un Qashqai 2019.
Non.
Oui. Et pendant le salon de l'auto, obtenez 500 $ de rabais additionnel à la location ou au financement.
Ben là, sur le Kicks ou sur le Qashqai?
Sur les deux.
Rappelez-le que je vais faire.
Jusqu'au 27 janvier 2020, détails et conditions chez votre concessionnaire Nissan.
Vous cherchez un courtier qualifié et dynamique pour l'achat ou la vente de votre propriété? Contactez Maria Peralta Guzman, votre courtière en immobilier Remax premier choix et une passionnée dans le domaine. Maria Peralta Guzman transformera vos projets en réussite.
Visitez mariaperalta.ca.
Les fêtes ont laissé des traces. Faut se reprendre en main? Le Club Avantage Multisport propose une grosse semaine gratuite d'essai à toutes ses activités. Venez essayer son gym, spinning, workout, yoga, tennis, badminton, même la garderie est gratuite.
Détail à clubavantage.ca.
Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du palmarès Via Capital. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contact. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com. Courtier immobilier Via Capital. SimonLaberge.com.
Vous avez besoin de pièces pour votre voiture? Pièces d'auto économique vous offre toutes les grandes marques nationales au meilleur prix. Pourquoi payer trop cher ailleurs? Pièces d'auto économique, c'est maintenant 5 magasins, dont un tout nouveau à Saint-Georges et une boutique en ligne à pièceséconomique.com.
Nouvelle année, nouveau propriétaire, nouvel inventaire. Tous les 2019 doivent partir chez Tige Chevrolet Buick GMC Cadillac. Sautez sur l'occasion et repartez à bord de Buick encore neuf 2019 à partir de 0% de financement sur 84 mois. Plus 1 000 $ de rabais, plus les pneus d'hiver gratuits. Ou encore, profitez de rabais jusqu'à 10 000 $ sur les Sierra Elevation 2019 aussi à 0%. Détail chez Tige Chevrolet Buick GMC Cadillac. Autrefois Fournier Chevrolet sur Marais. Fier concessionnaire du groupe Tige.
Choisir le REER Plus au Fonds de solidarité FTQ pour votre entreprise, c'est choisir d'offrir à vos employés un moyen d'épargner en vue de la retraite et de profiter de 30% d'économies d'impôts supplémentaires à chaque paye. C'est choisir d'offrir une épargne qui soutient et maintient des emplois de qualité au Québec. Simple et facile à implanter, le REER Plus au Fonds de solidarité FTQ, c'est le bon choix pour vos employés et votre entreprise. La valeur des actions fluctue. Veuillez lire le prospectus. Visitez fondsftq.com, section employeur, pour les détails.
En janvier, c'est le meilleur temps de l'année pour s'équiper face à l'hiver chez La Tulipe. Dans les deux magasins, on annonce jusqu'à -50% de réduction. Pour un manteau en duvet dans les grandes marques, des bottes, des habits de motoneige ou des raquettes, c'est le temps. L'inventaire est encore beau et on a encore toutes les couleurs et grandeurs. Venez faire un tour rue Saint-Vallier, au Carrefour Saint-Romuald ou en ligne à latulipe.com pour le constater. Jusqu'à -50% en janvier? Pourquoi se faire geler quand on peut s'habiller bien au chaud chez La Tulipe?
Vous êtes presbyte ou vous avez des cataractes? Voyez vos options grâce à la chirurgie par lentille intraoculaire offerte à l'Institut privé de chirurgie. Prochaine soirée d'information gratuite, le 29 janvier. Offrez-vous la liberté sans lunettes. Institutprivédechirurgie.com.
Les critiques sont unanimes. Hypocrite, le spectacle de Billy Tellier est un franc succès.
On n'aime pas être tout seul dans la vie, tu sais. C'est pas pour rien que l'être humain veut qu'il y ait des extraterrestres ailleurs, tu sais. J'aimerais ça aussi qu'ils viennent nous envahir. Juste pour voir la face de Donald Trump. Fuck! Laissez faire le mur! Faut faire un plafond!
Billy Tellier revient en supplémentaire à la salle Albert Rousseau le 10 mars avec son tout nouveau spectacle Hypocrite. Billets en vente sur billytellier.com.
Le le sport commence par l'avant-match avec Dan Pou en semaine 18h. FM 93.
OK, on est de retour dans l'avant-match. Évidemment, dans la pause, j'ai parlé amplement avec Will de ce fameux match entre LSU et Clemson. Hier, victoire de 42-25 et Joe Burrow, le carrière de LSU, aura gagné le trophée Heisman et le championnat national des États-Unis la même année. 60 passes de toucher pour lui, c'est un nouveau record de la NCAA. Et tout l'espoir qui sera repêché au tout premier rang du prochain repêchage, ce choix-là appartient aux Bengals de Cincinnati. Ça va leur faire du bien d'avoir un joueur qui a du bon sens et non 10-12 gars avec des dossiers judiciaires comme ils l'ont eu dans les dernières années. On a jasé également pendant la pause. Je vous ramène ça en ordre. Moi, les discussions de pause sont toujours intéressantes quand Will et moi, on s'entretient de sport. Donc, on a jasé dans la pause concernant Alexander Ovechkin. Moi, je pense qu'il va briser le record de 894 buts. Will n'est pas d'accord. Et il y a beaucoup plus de gens pas d'accord avec moi qu'il y en a qui pensent comme moi. 25-226, par curiosité, pensez-vous que le 894 buts de Gretzky est atteignable pour Ovechkin, qui en a 686 pour l'instant. Il lui manque donc 208 buts. Il a 34 ans. Donc, après les buts qu'il va faire cette année, il va lui falloir encore 4 saisons de 45 buts ou plus. C'est quand même pas rien, mais c'est possible. Mais juste qu'on parle de ce record-là, en date d'aujourd'hui, pour moi, ça démontre à quel point Ovechkin est un exceptionnel, parce qu'il évolue dans une époque où tous les matchs ou à peu près se terminent 3-1 ou 3-2, alors que Gretzky, lui, à son époque dans les années 80 et légèrement dans les années 90, quand même, il avait ralenti, mais il a joué dans les années 90. Les matchs se terminaient beaucoup plus souvent 5-4 ou 7-5 que 3-1 ou 3-2. Ovechkin est un marqueur d'exception, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est tout mon avant-match de ce soir. Je vous dis bonsoir. Merci.
De l'avant-match sont disponibles maintenant sur fm93.com. FM 93. Oh!